France Musique. Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Gabriel Oliver Aguillon.
Et notre invitée, Judith Pérignon. Bonjour Judith Pérignon.
Bonjour.
Votre roman « Là où nous dansions » est paru chez Rivage il y a quelques jours, le 6 janvier. Judith Pérignon, vous êtes journaliste, romancière, essayiste. Vous collaborez avec M, le magazine du Monde, la revue 21. Et puis vous avez signé différentes émissions quelques étés pour France Culture. Et donc ce livre, « Là où nous dansions », nous plonge dans Détroit. En 2013, comme dans les années 30, comme dans les années 60, on suit deux flics, Aira qui a vécu dans ses tours, ses grands logements sociaux construits dans les années 30, qui vont être démolis, et puis Sarah, sa collègue légiste, qui enquête sur la mort d'un jeune artiste dont le corps est retrouvé justement en 2013. Une fiction d'après la réalité, un fait divers sanglant, un roman à travers les époques dans une ville pleine de promesses. Judith Pérignon, vous aviez déjà été à Détroit en 2010 pour la revue 21. Vous avez publié Les Jardins de Détroit. Comment toute cette fascination pour l'Amérique et particulièrement Détroit vous est venue, Judith Pérignon ?
Je pense que l'attraction pour l'Amérique me vient de l'enfance. J'ai un oncle d'Amérique qui est parti à San Francisco à la fin des années 60. Donc c'est un personnage qui venait, revenait, à qui j'écrivais. Donc je pense que ça commence comme ça. Après, évidemment, la culture américaine, je suis pas la seule à y être sensible. Donc en grandissant, la musique, évidemment, adolescente, la littérature aussi. Et comme ça, j'ai cheminé en me nourrissant beaucoup de cette histoire, de ces personnages américains. Et j'ai visité les États-Unis, évidemment. Mais quand j'arrive à Détroit en reportage, il y a comme un choc, en fait. Il y a comme un choc. Cette ville, elle est effectivement à l'arrêt. C'est le ravage de la désindustrialisation. Une ville quasiment en quarantaine, dangereuse, vraiment à l'arrêt. Et quand une ville est à l'arrêt comme ça, justement, aux États-Unis, tout va si vite. New York, tout va si vite. On se laisse là, à l'arrêt. On peut enfin essayer de comprendre. En plus, mon métier de journaliste me permet de parler aux gens. Et donc, j'ai senti dans cette ville beaucoup de réponses à des questions que je me posais, beaucoup de clés américaines. Et j'y ai entendu à la fois toute sa noirceur, sa violence, mais aussi sa force, et notamment sa musique.
Et la musique, effectivement, qui prend beaucoup de place dans votre livre, Là où nous dansions, une ville de musiciens, berceau de la soul music, et pas n'importe quel musicien. Il y a même d'ailleurs une phrase dans votre livre, page 57, c'est de ce côté-ci qu'il faut aller quand on vient à Détroit, pense Sarah, c'est vers la musique, vers les gens qui chantent, ils sont uniques. On va citer quelques noms de ceux qui ont grandi, peut-être, à Détroit.
Ah oui, alors donc Sarah d'ailleurs, elle est là devant un karaoké qu'il y avait au marché où les gens se mettent à chanter. Donc, mais qui a grandi à Détroit, c'est The Supremes, c'est Stevie Wonder, c'est tellement de gens, c'est il y a Bob Seger côté rock, les Stooges sont pas loin. Il y a ce label de la Motown qui naît donc
créé en
59 et qui explose en 61, 62 et donc qui va nous faire connaître Marvin Gaye, lancer des tournées aux États-Unis, puis dans le monde, et on danse encore sur la Motown. Il y a le blues aussi juste avant, c'est très important. Il y a énormément de bluesman, John Lee Hooker, ses premiers disques, c'est là-bas, c'est un ouvrier des usines, et il enregistre ses premiers disques là-bas. Donc c'est énorme. J'ai tout à coup, il faudrait dire des noms, il y en a tellement qui me viennent que ça bloque, j'en ai trop.
Et en tout cas, vous avez cité celui de Stevie Wonder que nous allons avoir le plaisir d'écouter sur France Musique. Thank You Love.
Thank you, love. You made me happy in so many ways. Through all my sweet and tender yesterdays, you were the sunshine I needed, love. You were there. You warmed my heart when troubled skies would come. You were my one and only faithful. With all
You Love de Stevie Wonder, une chanson de 1966. Stevie Wonder avait 16 ans. Je suis avec notre invitée Judith Perrignon pour son livre Là où nous dansions, où la musique de Stevie Wonder apparaît. Stevie Wonder, Judith Perrignon, que vous avez vu récemment en concert. Racontez-nous.
En fait, j'étais aux États-Unis, à Détroit pour suivre la campagne des élections présidentielles, là, au mois d'octobre, novembre. Et il y avait un meeting Biden-Obama à Belle Isle. Belle Isle, c'est une petite île. Enfin, Détroit est cerné de rivières, donc c'est vraiment une île juste à de Détroit. Et le concert était ouvert par Steve, le show, enfin le meeting, voilà, je vais y arriver, était ouvert par Stevie Wonder. Donc j'étais de l'autre côté de la rivière, c'était impossible d'approcher, mais entendre la voix de Stevie Wonder comme ça sur cette ville, à ce moment si tendu de l'histoire américaine, ça avait vraiment un sens, parce que c'est là qu'est tout ce que je vous parlais de la force de cette ville, mais aussi quand même de l'Amérique, c'est quand elle produit ces voix-là, cette musique-là, il y a quelque chose qui vibre longtemps après, quoi.
Judith Perrignon, dans votre livre, le héros qui a grandi dans ces HLM de Détroit, construit dans les années 30 par Eleanor Roosevelt, là se passe une intrigue. Des années plus tard, un artiste français assassiné, on y reviendra, à l'époque, ce futur flic était le voisin de Marie, Flo et Diane, qui deviendront les Supremes, avec Diana Ross, bien sûr, et puis tout à l'heure, on a même oublié de citer Aretha Franklin. Dans votre livre, les époques se croisent, mais la musique est toujours là. Quand vous y étiez, quand vous avez pu assister à des concerts, la musique est vraiment toujours dans la ville de Détroit.
Oui, vraiment. C'est quelque chose qui ne s'est jamais arrêté. Des fois, vous êtes comme ça dans ces années où se passe mon livre, notamment les années contemporaines 2013-2014. Moi, je connais Détroit depuis 2010. Par exemple, il n'y a plus d'éclairage public, il n'y a plus rien, il fait noir le soir, c'est terrible. Mais si vous connaissez les bonnes adresses, vous poussez la porte d'un endroit et tout à coup, vous n'entendez que de la musique, des rires, de la lumière, une espèce de chaleur que vous ne soupçonnez pas quand vous êtes à 100 mètres de là, quoi. Et la musique, elle ne s'est jamais arrêtée, que ce soit effectivement, vous avez toujours des endroits pour le jazz, le blues, le rock, puis a émergé évidemment le rap, la techno, enfin tous les courants musicaux. Détroit est le berceau de tous les courants, c'est pas que Détroit, mais elle a produit dans tous les styles musicaux, elle a son opéra aussi. Et donc, vraiment la musique, c'est le fil qui ne s'est jamais rompu. Et donc la musique à Détroit, c'est quelque chose mais de vital, de consubstantiel, voilà, et qui vous réchauffe.
La musique donc absolument présente dans votre livre. Judith Perrignon, avec vous, on se faufile dans Détroit, une ville immense en superficie. On ne peut pas vraiment se promener à pied. Il y a beaucoup d'autoroutes qui passent à l'intérieur de la ville. Et puis, vous suivez donc l'histoire de ce jeune homme qui a vraiment existé. À 23 ans, Bilal Berhini s'est fait tuer. L'enquête a mis du temps à retrouver son identité. On est entre le roman et le documentaire. Vous remerciez d'ailleurs à la fin de votre livre deux policiers avec les mêmes prénoms que vos héros principaux. Est-ce que ce sont eux qui vous ont vraiment insufflé l'engagement qu'on ressent dans vos pages, vraiment l'envie de trouver une histoire et de fouiller la ville?
Non, parce que vraiment, moi, j'allais à Détroit depuis des années déjà pour ces reportages, et puis je me suis liée à des gens là-bas. Donc c'est encore une fois, c'est une ville. Je savais qu'un jour j'en ferais un roman parce que justement, à chaque fois, vous êtes complètement percuté par l'histoire et l'intensité des gens qui deviennent pour moi à chaque fois des personnages, en fait.
Mais pourquoi avoir fait un roman?
En revanche, la mort de Bilal Berhini m'a vraiment bouleversée, et parce que c'était justement un artiste d'une grande puissance, et tout ce qu'il dessinait à Paris, comme dans beaucoup de coins du monde, hein, il s'est beaucoup promené en Tunisie, au fin fond près de la frontière russe, etc. Il racontait pour moi, il racontait l'humanité, il racontait quelque chose, et il montrait du monde sa violence, la façon dont il broie aussi les hommes. Et donc, ces dessins résonnent énormément avec l'histoire de Détroit. Et en plus, donc, il a été tué dans ce Booster Project où ont grandi les Supremes, où ont grandi, voilà. Et ça, je le savais déjà. Et je me disais, c'est impossible parce que ces quatre immeubles, finalement, le personnage central de ce livre, c'est ce vieux HLM qui est en ruine depuis 30 ans. Et je voulais qu'au travers de l'histoire de ce HLM, on raconte la vie, la mort et surtout l'espoir et comment l'espoir a été tué dans cette ville.
Mais on a l'impression dans ce livre que les gens tiennent bon. Il y en a qui veulent rester, quoi. Ils tiennent à leur ville.
C'est ça, je voulais pas du tout des gens écrasés, c'est pas du tout ça c'est pas ça qu'on sent chez les gens de Détroit. Ils aiment leur ville. Ils aiment l'histoire de cette ville, ils se sont battus, ils se battent encore pour vivre. Et même certains, et justement là on revient à la musique, mais on peut revenir au choix de Bilal Berhini de venir à Détroit. C'est-à-dire que ça, dans cet abandon qui a été organisé, ces ruines, on pouvait créer, on avait la liberté de créer. Mmh. Et on avait des espaces, et notamment quand on est jeune, on pouvait créer des groupes, on pouvait tourner, on pouvait dessiner. Et ça, je l'ai senti, et ça c'est beau.
Musique avec l'un des groupes dont vous parlez dans votre livre, The Donnays, que je ne connaissais pas. Nous allons les écouter dans ce titre, Devil in His Heart. Donnays et ce titre Devil in His Heart à 8h42 sur France Musique. Je suis accompagnée de Judith Pérignon, romancière, et donc la sortie de ce roman Là où nous dansions paru chez Rivage. Judith Pérignon, cette chanteuse, vous l'avez rencontrée vous-même.
Oui, là ce que vous entendez c'est des voix de lycéennes, hein. C'est comme beaucoup de ces jeunes des années 60, ils ont fait un ou deux 45 tours et puis après ils ont eu une vie, et voilà, moi je l'ai rencontrée, j'ai rencontré une dame qui dansait, elle a 70 ans, elle m'a dit j'ai 70 ans, et puis on m'a dit mais je crois que c'est Yvonne son prénom, et voilà, même la phase B de ce 45 tours a été reprise par les Beatles, ce qu'ils ont découvert après, mais... C'est vraiment, et ces rencontres, c'est aussi pour montrer, et ce que j'en fais dans ce roman, c'est pour montrer que tous ces jeunes, ils émergeaient d'une période où ils avaient acquis une forme d'espoir que l'histoire des Afro-Américains allait s'inverser. Détroit était le lieu où les Afro-Américains avaient le plus haut niveau de vie dans les années 50. Il y avait comme ça des quartiers où les Noirs étaient propriétaires de leurs magasins, ce qui est très rare encore aujourd'hui aux États-Unis.
C'était un vrai symbole, cette ville.
Oui, ils émergeaient. Ils émergeaient. Ils chantaient dans les églises, comme depuis toujours. Ils chantaient avec la guitare. Mais là, il y a eu énormément de petits groupes dans les lycées, partout. On entend leur légèreté dans ce morceau-là. On entend leurs espoirs. Et bon, voilà. Et c'est bien de les entendre encore.
Et oui, on est ravis aussi, nous, de les écouter sur France Musique. Judith Pérignon, est-ce que les musiques composées, écrites à Détroit, ne peuvent venir que de là-bas?
Alors, oui, alors il y a cette idée qu'à Détroit, notamment le bruit des usines a beaucoup marqué et a eu un gros impact sur la musique. On peut le dire de la techno, on peut le dire du rock, on peut le dire du blues aussi. La rythmique de John Lee Hooker est très... C'est aussi peut-être celle d'un homme qui vient du Sud, mais qui travaille dans cette espèce de bruit infernal et cette rythmique des usines. Et donc, oui, c'est une théorie largement... En même temps, la Motown, elle a voulu une musique pour tout le monde. Donc, c'est aussi... c'était un vrai projet industriel, pas simplement artistique. Donc, c'est beaucoup plus fait pour une audience qui n'est pas que noire, qui est blanche, pour faire danser les gens, voilà. Ça, c'est un projet qui allait vers l'industrie, c'est l'industrie musicale aussi, mais efficace et belle.
Judith Perrignon, est-ce que vous avez ramené des disques, des vinyles de ces voyages à Détroit?
Toujours, je reviens toujours avec des vinyles dans mes valises. Les record stores, c'est vraiment des lieux de retrouvailles, de rencontres. On a des pépites. Il y a un label à Détroit qui s'appelle GVB. Je parle de ce Joe Van Battle qui avait dans Hastings Street, c'est lui qui enregistrait là pour les premières Aretha Franklin, les premiers Johnny Hooker. Il avait un speaker comme ça en dehors de sa boutique et il a fait un petit label. Et ça, c'est des pépites, les GVB. C'est des trésors d'histoire. Ouais.
Johnny Hooker, vous en parlez, voici sur France Musique, This is Hip.
I get so excited, babe, see you walking down the street. I get so excited, darling, see you walking down the street. Baby, I get so excited, darling, just can't help myself. My mama, she told me to leave you alone. My mama, she told me to leave you alone. But my mama didn't know you were putting down. Oh no. Night time is the right time to be with the one you love. You know when night come, baby, God knows you so far away. So excited, darling, when you're not around. I get so excited, baby, don't know what to do. All right.
John Lee Hooker et ce titre This is Hip, un bluesman américain très présent à Détroit et donc très présent la musique dans le roman Là où nous dansions de Judith Perrignon, notre invitée ce matin. Judith Perrignon, Détroit, donc ville symbole d'une Amérique métissée populaire, ça résonne avec ce qui se passe aujourd'hui, toute cette violence de Détroit, le Black Lives Matter, les tensions cet automne pendant les élections auxquelles vous avez assisté pendant plusieurs semaines là-bas aux États-Unis, les violences au Capitole la semaine dernière. À quelques jours de l'investiture de Joe Biden à la Maison Blanche, quel est votre regard de journaliste, de romancière aujourd'hui sur ce qui se passe, vous qui connaissez bien tous ces problèmes aux États-Unis?
Je crois que la société américaine, elle porte en elle cette tension depuis très très longtemps, cette fracture raciale, cette fracture qui naît des années 60. Les années 60, c'est un vrai cataclysme culturel aux États-Unis, y compris dans les familles. Moi, ce que j'ai vu, par exemple, quand j'étais là-bas cet automne, c'est que, prenons une famille blanche, certains, des gens de Détroit, me disaient, les parents, ils vont encore voter Trump. Et puis eux, ils sont plus cool, évidemment, et ils sont porteurs même de cette musique, de cette révolution culturelle qu'ont été les années 60. Et ils refusent ça. Donc l'Amérique est vraiment très divisée, mais quand même, si moi je devais donner une note d'espoir, c'est que je pense qu'on est dans ce moment où, quand, en 2012, quand Obama a été réélu, Les commentateurs disaient c'est la fin de la domination de l'homme blanc aux États-Unis, ce qui était vrai. Mais ça prend du temps. Mmh. Et là, on a une partie de la vieille Amérique. Alors, certes, les visages sont jeunes, hein, ceux qu'on a vus au Capitole. Il y a eu la même chose au Capitole du Michigan en avril contre le confinement. Mais c'est vraiment, c'est une Amérique rurale, par exemple. C'est des gens qu'on ne voit pas dans les villes. C'est ceux qui sont en train de devenir minoritaires et qui pourtant veulent incarner les premiers pionniers, quoi. Mais la société américaine, elle a fait le pas. Quand on voyait les événements à Washington, quand on voyait la maire de Washington, elle était noire. Le chef de la police à Washington, il était noir. Et les manifestants, là, les plus violents, effectivement, c'était des petits blancs. Mais il faut... Voilà, c'est une société qui a du mal à digérer ça parce qu'elle s'est construite sur la ségrégation et la domination blanche. Mais ça va passer. Ça prendra du temps, mais ça va passer. Ça passe et ça, c'est bien.
Judith Perrignon, est-ce que la musique est pour vous une forme de résistance à toute cette violence?
Ah oui. Ah oui. Vraiment, c'est une forme de résistance, de résilience. On le sent à Détroit. Et la musique raconte toute cette histoire. Elle la raconte bien. Et elle porte ce métissage en elle. Puisque moi, par exemple, mes personnages, on voit bien comment les jeunes blancs de Détroit sont les gardiens de cette vieille musique noire, tandis que la jeunesse noire, ça, c'était la musique de leurs grands-parents. Donc, ils sont partis faire du rap et complètement autre chose. Et donc, la musique, elle digère tout et elle mélange et elle fait son travail.
La musique très présente dans votre dernier roman, Là où nous dansions, paru aux éditions Rivage. Elle l'était déjà aussi sur France Culture, avec vos grandes traversées consacrées à Frank Sinatra en 2014 et puis à Bruce Springsteen en 2017, un net tropisme américain, une attirance pour la musique beaucoup. Je vous propose d'écouter la voix de Frank Sinatra puisque nous accueillons, c'est un peu pour ça aussi, Marc Voinchel, directeur de France Musique. On Bonjour. Sait que vous l'aimez, ce crooner.
Ah bon ?
Marc Voinchel, bonjour.
Bonjour, Gabriel. C'est très intimidant de rentrer, de savoir que la voix de Sinatra va arriver. Là, en général, ça intime l'ordre de se taire absolument et de laisser The Voice déplier ses roucoulades. Non, justement, il ne roucoulait pas. The Voice, c'est bien ça qui fait sa qualité. Vous avez choisi quoi pour aujourd'hui?
It was a very good year.
Ah, vous voulez qu'on pleure tout de suite, alors?
Exactement.
D'accord, c'est ça.
On se souvient à l'occasion du 100e anniversaire de la naissance de Frank Sinatra, une grande journée.
Une grande journée entière pour ce qu'il avait dû avoir 100 ans. Et je me souviens qu'on a obligé beaucoup de gens à rester chez eux. Je me souvenais toujours deux jours après de Jacques Vendroux dans les couloirs de la maison de la radio me disant « Ah ben alors toi, tu peux te vanter de m'avoir fait rester chez moi tout le samedi quand même. Hein. » Ma femme, elle avait ras-le-bol. Et voilà.
À cause ou grâce à Frank Sinatra.
Mais c'est vrai que... ce qui est assez fascinant, c'est que la modernité de Sinatra, elle reste intacte. C'est quand même ça qui... On peut toujours ironiser, on peut raconter tout ce qu'on veut. Il suffit de l'entendre chanter, ça reste toujours quelque chose qui est au présent, parce qu'il le concevait exactement comme ça, pour qu'on soit accessible et qu'on ait accès à lui tout de suite, sans phare, sans aucune porte, rien, tout de suite. Et ça demeure. Je vous entendais parler des rappeurs et tout ça, ça demeure... Comme exemple, j'ai encore plein de jeunes gens, de jeunes chanteurs aujourd'hui, qui ne l'avouent peut-être pas trop parce qu'il ne faut pas, mais qui bel et bien prennent les leçons de ce qu'on entend quand Sinatra chante.
Marc Voinchel, Judith Perrignon, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vos grandes traversées consacrées à Frank Sinatra sont accessibles sur le site de France Culture. Votre livre, Là où nous dansions, nous vous le conseillons vivement. Frank Sinatra, le voici, merci d'avoir
C'est
été
moi
avec
qui
nous.
Vous remercie.
When I was 17, it was a very good year. It was a very good year for small town girls and soft summer nights. We'd hide from the light on the village green. When I was 17, when I was 21, it was a very good year. It was a very good year for city girls who lived up the stair with all that perfumed hair. And it came undone when I was 21.
À réécouter sur francemusique.fr.